Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec pour présenter cette émission Didier Gelot.
Bonjour.
Et Laurent Godineau, moi-même. Et Claude à la technique, fidèle au poste. L'émission de ce soir est consacrée à la réforme des retraites engagée depuis quelques semaines par le gouvernement. Nous l'avons intitulé « Le projet de réforme des retraites, un nouveau recul ». Pour en discuter, deux invités, donc Annick Coupé, qui est porte-parole de l'Union syndicale solidaire, qui doit être au téléphone.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Stéphanie Treillet, maître de conférence en économie à l'Université de Créteil et membre de la Fondation Copernic.
Bonsoir.
Donc vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10 et la retrouver ensuite, comme toutes les précédentes, sur le site internet de la Fondation Copernic, www.fondation-copernic.org. L'émission sera rediffusée mercredi prochain à 7h30 du matin sur RFPP 106.3.
Bien, bonjour Annick, donc de nouveau,
bonjour
Stéphanie. Alors, vous savez l'une que l'autre, c'est pas savoir que la Fondation Copernic et ATTAC viennent de publier une note sur les retraites, qui est disponible en ligne sur le site de la Fondation. Et donc, à cette occasion, il nous a semblé important de revenir un petit peu sur les questions importantes pour éclairer ce débat, qui va quand même pas mal structurer les différentes luttes qui pourront se mener dans les mois à venir. Et répondre à certaines questions du type quelle est aujourd'hui la situation vis-à-vis des retraites, quel bilan on peut tirer des différentes réformes qui ont été passées depuis 93, quelles sont aujourd'hui les conditions. Deuxième grande question qu'on voudrait vous poser à toutes les deux, quelles sont les propositions que font le gouvernement, enfin, que fait le gouvernement depuis quelques semaines, et puis vis-à-vis de ces propositions, quelles sont les réactions qui sont à la fois celles du mouvement syndical et puis plus largement du mouvement associatif. Alors peut-être première série de questions, donc où en est-on un petit peu de la situation vis-à-vis des retraites, de son mode de financement, et qu'est-ce qu'on peut dire des réformes qui ont été mises en place par l'ancien gouvernement Sarkozy. Qu'est-ce qui veut commencer, Stéphanie?
Oui, alors je peux commencer en disant d'abord qu'il faut faire justice d'une contre-vérité, d'une idée fausse qui est véhiculée partout, qui était déjà véhiculée en 2010 par le MEDEF, par le gouvernement, et qu'on retrouve à nouveau aujourd'hui un peu partout dans les médias, selon laquelle s'il y a aujourd'hui un déficit des systèmes de retraite, ce serait dû à un choc démographique, ce serait dû à un nombre trop important de retraités et d'inactifs par rapport au nombre d'actifs. Force est de constater, et le Conseil d'orientation des retraites, alors on sera peut-être amené à présenter cet organisme, puisque le gouvernement s'appuie sur ses rapports successifs, s'inspire de ses rapports successifs pour élaborer sa réforme.
Le corps, donc.
Ouais. Le reconnaît lui-même dans son dernier rapport. Le déficit aujourd'hui du système de retraite, qu'il estime à un ensemble de 14 milliards d'euros en 2011, n'est pas dû à un choc démographique, n'est pas dû à un nombre trop important de retraités aujourd'hui ou à l'horizon qu'il envisage comme 2020, mais il est dû tout simplement à la crise. C'est-à-dire au fait qu'à cause du ralentissement de la croissance, à cause du chômage accru et des recettes moindres et des dépenses supplémentaires que cette crise entraîne, eh bien, on est arrivé à ce déficit. Et si on regarde les ordres de grandeur, l'impact de la crise sur les recettes du système de retraite en 2011 est estimé à peu près du même montant que ce déficit. Donc il faut, une fois pour toutes, faire un sort à cette idée de contrainte démographique qui pèserait sur le financement des retraites.
Donc Annick, le débat ne porte pas tant sur le déficit, qui n'est pas, de ce point de vue, qui n'est pas questionné, mais sur l'origine du déficit, c'est ça?
Oui, enfin, le gouvernement, dans son projet de réforme, a repris exactement le type d'argument à la fois qui était repris par les gouvernements précédents, je pense à 2010, mais c'était déjà le cas en 2003 et même en 93, c'est-à-dire cet argument, on vit plus vieux, donc il faut travailler plus longtemps. Cette espèce de bon sens, voilà. Bon, donc Stéphanie a montré que effectivement la question du déficit prévu à l'horizon 2020 n'a rien à voir avec cette affaire de démographie. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que il faut pas oublier que ce qui se passe aujourd'hui en matière de retraite, fait par le gouvernement Hollande et Hérault, ça s'inscrit tout à fait dans les recommandations ou injonctions de la Commission de l'Union européenne, qui s'inscrit dans les politiques d'austérité. Lorsque François Hollande est allé à Bruxelles, je crois que c'était au mois de mai, la Commission a dit, voilà, il faut que la France accélère un certain nombre de réformes sur le coût du marché du travail, sur les retraites, sur la flexibilité. François Hollande s'est défendu de mettre ça en œuvre. Il a dit non, non, mais c'est en France, c'est nous qui décidons. Sauf qu'au même moment, il engageait, entre guillemets, la concertation sur cette nouvelle contre-réforme des retraites. Et cette contre-réforme, elle s'inscrit tout à fait dans la logique de ce qui s'est fait depuis 93. Je rappelle, 93, c'est le passage pour les salariés du privé des 10 années de référence aux 25 meilleures années. C'est la désindexation et c'est le passage à 40 annuités. Aujourd'hui, on en est à 41 annuités et demie pour valider une retraite à taux plein. Je donnerai simplement un chiffre. La moyenne cotisée par les salariés, je crois que c'est le chiffre, le dernier chiffre à jour fourni par la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour 2012, c'est une moyenne de 37,75 annuités, avec une différence évidemment importante entre les hommes et les femmes, on y reviendra peut-être. Donc ça veut dire qu'on a déjà un décalage, un décrochage de 4 années. Ce qui veut dire que les mesures qui ont été prises en 93 et successivement ont contribué à faire baisser les pensions. Or je pense que c'est ça la question de fond, c'est-à-dire que effectivement, on sait que le patronat, depuis longtemps, on sait que les politiques, les orientations libérales de l'Union européenne visent à faire baisser les pensions et en fait, d'une certaine façon, à favoriser pour ceux et celles qui en auront les moyens, mais ça sera sans doute une minorité, les retraites complémentaires, les fonds de pension, etc., etc. Donc, le problème, c'est qu'on est toujours dans cette même logique et de ce point de vue-là, on n'est pas du tout dans le changement, mais dans la continuité.
Mais on peut quand même remarquer que si on regarde les taux d'emploi sur ces dernières années, il est vrai néanmoins que les réformes qui ont démarré en 93 ont eu un impact sur le taux d'emploi qui ont augmenté. On voit aujourd'hui que les salariés travaillent de plus en plus longtemps, même si on sait par ailleurs que bon nombre d'entre eux sont au chômage. Mais il y a quand même il y a une augmentation du taux d'emploi au cours de ces dernières années dont l'impact peut certainement être attribué aux modifications de régime des pensions.
Oui, mais alors effectivement, j'irai par obligation, soit par obligation parce que de fait le nombre d'annuités légalement obligatoires a augmenté, donc de fait les salariés ne peuvent pas partir avant, mais aussi parce que effectivement des salariés qui ont des pensions basses, qui ont eu des salaires bas toute leur carrière, je pense en particulier aux femmes, eh bien vont attendre l'âge maximum qui était de 65 ans jusqu'à présent pour avoir une retraite à taux plein sans décote. Donc de fait, ça augmente. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est qu'en même temps, on a aujourd'hui 5 millions de chômeurs et chômeuses, toutes catégories confondues. Ça veut dire que, de fait, en prolongeant l'activité des plus anciens, ça a sans doute un effet sur le fait que les plus jeunes ont du mal à rentrer sur le marché du travail. Parce que on a d'un côté, effectivement, à peu près 50% des personnes, au moment où elles partent à la retraite, au moment où elles font valider leur droit à la retraite, eh bien, qui ne sont plus dans l'entreprise. Alors, elles sont soit au chômage, soit sur des plans de fin de carrière, soit sur des longues maladies. Enfin, il y a différentes situations, mais la moitié ne sont plus dans l'emploi. Et de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne, sur les jeunes, effectivement, le taux de chômage des jeunes
ne fait qu'augmenter.
Ne fait qu'augmenter. Donc, évidemment, cet allongement qui est constaté, c'est pas parce que les gens veulent travailler plus longtemps. C'est d'une certaine façon, ils n'ont pas le choix.
Il faut ajouter que si ces taux d'emploi de ce qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire après 55 ans, a augmenté, c'est souvent dans des conditions de précarité extrême, puisqu'on a pu constater que dans cette tranche d'âge, ceux et surtout celles qui sont en emploi le sont rarement avec un emploi à temps plein, avec un CDI, etc. Donc on constate une dégradation de leurs conditions salariales, de leurs conditions de travail, des conditions de leur emploi dans cette cette tranche d'âge, ce qui a aussi pour conséquence que l'alignement des pensions, le calcul des pensions à partir justement d'un nombre plus restreint d'années va conduire à une dégradation accrue justement de ces années.
Alors est-ce qu'on a
une... Il est de plus en plus difficile de trouver les meilleures années dans cette optique.
D'accord. Est-ce qu'on a une idée de la baisse du montant des pensions quand vous dites on n'a plus que 37 ans et demi de cotisation en moyenne alors qu'il en faut 41 ans et demi pour partir avec une pension pleine?
Alors non, tout dépend évidemment de la situation antérieure. Une chose qui est sûre, et Annick en a parlé, c'est que l'effet des réformes antérieures, donc faut rappeler qu'il y a eu quatre réformes successives, donc Balladur en 1993, comme l'a dit Annick, Raffarin-Fillon en 2003, Fillon-Bertrand en 2007, et la dernière, Fillon-Woerth en 2010. Donc ces réformes, ces contre-réformes, hein, c'est ce qu'il faudrait pouvoir dire, ont eu pour effet notamment d'aggraver la situation des salariés les plus précaires, les plus pauvres, et notamment d'aggraver les inégalités hommes-femmes. Et on est aujourd'hui dans une situation, donc d'après les chiffres du COR en 2010, où on a un écart qui est quasiment du montant moyen des pensions, qui est quasiment du simple au double entre les hommes et les femmes. Alors évidemment, ça renvoie des inégalités très importantes à l'intérieur
dans la carrière
de chacun. Ah, bien sûr, mais les retraites à la fois reflètent et amplifient encore plus aujourd'hui qu'avant du fait de l'effet de ces contre-réformes les inégalités salariales, puisqu'on rappelle qu'il y a déjà une inégalité de 27% en moyenne entre les salaires des hommes et les salaires des femmes.
Alors par quel mécanisme ces inégalités se sont renforcées entre les hommes et les femmes?
Alors notamment parce que toutes les réformes qui visent à augmenter la durée de cotisation requise, hein, comme l'a expliqué Annick, défavorise de façon disproportionnée ceux et donc celles qui ont des carrières plus courtes, qui ont des carrières interrompues, hachées, discontinues, avec des phases d'inactivité, des phases de temps partiel, etc. Donc il y a un effet amplifié de tout cela dans le mode de calcul des retraites, et on sait évidemment, compte tenu de la répartition inégalitaire des tâches domestiques et parentales, compte tenu de l'absence de mode de garde des jeunes enfants, bon, de toute une série de contraintes qui pèsent sur elles, eh bien ce sont très majoritairement les femmes, donc qui non seulement ont déjà les salaires les plus faibles, mais qui en plus présentent une plus grande difficulté à totaliser le nombre d'annuités requis.
Annick Coupé, quelques exemples
aussi
sur ce point.
Oui, je pense qu'il faudrait aussi parler de la question de la décote, c'est-à-dire que cette double peine qui a été instaurée peu de temps avant d'ailleurs la réforme Balladur de 93, mais effectivement aujourd'hui, quand vous n'avez pas votre nombre d'annuités, eh bien vous subissez 5% de décote par année manquante dans une limite de 25%, enfin de 5 années. Bon, donc ce qui veut dire que effectivement, pour les femmes qui valident moins globalement moins d'annuités que les hommes, eh bien elles vont avoir entre guillemets le choix entre partir avec une retraite amputée de cette décote, soit effectivement attendre l'âge max de 65 ans aujourd'hui, et qui demain, si la nouvelle contre-réforme s'applique, sera de 67 ans. Bon, et donc ce phénomène de la décote, qui est franchement un scandale, c'est une question sur laquelle on ne peut même pas discuter avec ce gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de sujet tabou comme bien d'autres, en disant ça fait partie des choses dont on ne peut pas discuter. On sait que ça amplifie les inégalités, particulièrement pour les femmes, et pourtant ça n'a pas été dans les sujets qui ont été mis sur la table dans les discussions ou pseudo-concertations qui ont eu lieu ces derniers mois.
Il y a un sujet quand même sur lequel j'aimerais vous interroger, parce que on va passer après la pause musicale d'ici quelques minutes, on va passer à la situation actuelle, donc les propositions qui sont faites par le gouvernement. Gouvernement présidé par Hollande. Mais on a bien vu, il y a eu quatre déjà contre-réformes, hein, vous l'avez dit, mais à chaque fois on nous a dit c'est la dernière. Voilà, on va là maintenant, ça y est, on a trouvé la solution pour financer le régime des retraites, enfin les années à venir. Cette fois-ci, c'est la dernière. Ça va être un peu dur, c'est vrai. On va demander un peu d'effort aux salariés, mais cet effort, il va nous permettre de franchir le cap des prochaines 10, 20, 30 années. Où on en est aujourd'hui, cette affaire?
Je pense que d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que évidemment, on peut pas croire à cette idée, parce que qui pourra dire quelle sera la situation de l'économie réelle dans 5 ans, mais encore moins dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Personne. Je veux dire, on voit bien, bon, on est dans une crise systémique dont on ne sait pas exactement. Bon, voilà. Donc, il est évident que la question du financement des retraites est liée à un certain nombre de facteurs. Bon. Stéphanie a parlé tout à l'heure effectivement des effets de la crise, du chômage, donc de moins de recettes pour le financement de la protection sociale et donc des retraites. Donc il est clair qu'aujourd'hui ce qu'on nous vend comme la dernière réforme qui réglera tous les problèmes, c'est totalement illusoire. Parce que de toute façon, on est dans un système de retraite par répartition, ce qui veut dire que l'année X, eh bien, c'est les recettes de l'année X qui équilibrent les pensions versées de l'année X. C'est-à-dire qu'on, bon, et donc ça veut dire que évidemment, à chaque fois, il faut se poser le problème du financement compte tenu des aléas, des différents facteurs qui rentrent dans ces considérations.
Ma question renvoyait un petit peu au scénario, aux différents scénarios que nous propose le corps.
C'est ça. Alors d'abord, il faut rappeler quand même, on nous parle toujours du rapport actif-inactif, mais c'est une façon de prendre les choses qui n'envisagent pas la question de l'emploi. Ce qui est pertinent pour le financement des retraites, c'est le rapport entre les actifs qui ont effectivement un emploi et tous ceux qui n'en ont pas, qu'ils soient chômeurs ou inactifs. Et donc, on voit bien que la question de l'emploi, bon, on l'a dit pour les seniors, on l'a dit pour les jeunes.
Elle est centrale.
Mais la question de l'emploi est une variable centrale de l'avenir du financement des retraites. Or, de ce point de vue-là, le Conseil d'orientation des retraites a prévu toute une série de scénarios sur la base d'hypothèses qui, d'une part, paraissent irréalistes pour bien des points et, d'autre part, posent tout un tas de problèmes politiques. Alors, en quoi est-ce qu'elles sont irréalistes ? Eh bien, tout d'abord, le corps bâtit donc différents scénarios. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres. Mais en gros, la variante en ce qui concerne le chômage qu'il prévoit pour ces scénarios à l'horizon 2020 ou 2040, eh bien, ça va être un taux de chômage soit de 4,5%, soit de 7%. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Sauf qu'il faut quand même bien voir qu'on est aujourd'hui avec un taux de chômage officiel, je dis bien, de 10,5%. Donc, on se demande quels moyens envisage le corps pour parvenir à une quasi-division par deux, dans le cas d'un de ces scénarios, de ce chômage.
Le corps ne dit rien.
Alors, il dit des choses, sauf que ce qu'il dit pose des problèmes à la fois de réalisme et de choix politiques. Par exemple, le corps n'envisage pas une réduction de temps de travail. Bon, alors, bien entendu, un allongement de la durée du travail sur le cycle de vie est envisagé via justement le recul de l'âge de la retraite, mais en ce qui concerne la durée journalière ou hebdomadaire de travail, eh bien, le corps n'envisage aucune reprise d'une réduction de la durée du travail. Bon, ce qui revient à dire que si le gouvernement Hollandero reprend ses hypothèses, pour la première fois, on aurait un gouvernement, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, on aurait un gouvernement de gauche qui envisagerait que sur 40 années, la durée du travail ne va pas changer et que finalement cela revient à entériner un rapport de force qui est totalement à l'avantage du patronat de ce point de vue-là. Ça serait vraiment une sorte d'arrêt dans le processus d'avancée de la civilisation de ce point de vue-là. Bon. Ensuite, eh bien, le corps prévoit justement, pour arriver à cette réduction du chômage sans réduire le temps de travail, il prévoit du coup des taux de croissance du produit intérieur brut, qui sont de l'ordre de 2% voire plus, c'est-à-dire qui paraissent, à la fois, on peut se poser la question de la soutenabilité écologique aujourd'hui de tels taux de croissance, bon, ça fait bien longtemps qu'on les a pas eus, mais surtout, si les politiques d'austérité doivent se poursuivre, on voit pas du tout comment de tels taux de croissance pourraient être atteignables. Donc, on est dans des scénarios qui paraissent totalement irréalistes.
Ouais.
Annie, quelques mots si tu veux là-dessus, après une pause musicale. Tu veux intervenir là-dessus ou pas ?
Oui, non, mais je pense que parce que la question, c'est évidemment le gouvernement s'abrite derrière ce rapport du corps et ses différents scénarios, ainsi que sur le rapport fait par la commission Moreau, mais qui sont sur des hypothèses, comme l'a montré Stéphanie, qui sont quand même assez loin de la réalité telle qu'elle sera, enfin on peut le penser, et parce qu'il refuse effectivement de mettre en débat, mais je l'ai dit, sur la décote, c'est un sujet tabou, mais il refuse aussi de mettre en débat une série de choses, par exemple sur le financement, que nous on a avancé, d'autres ont avancé, d'autres organisations syndicales ou d'autres réseaux ou la Fondation Copernic. Donc je veux dire que le gouvernement s'appuie sur ces hypothèses pour dire, voilà, on travaille, c'est sérieux, il y a des chiffres, c'est scientifique, etc. Et de cette façon-là, ça évite de mettre sur la table des vrais sujets de débat politique.
Des vrais choix politiques,
ouais. Voilà,
des
et
choix de société.
Des choix de société qui toucheraient à la fois, évidemment, la question du temps de travail et pris globalement, que ça soit en termes d'allongement par le biais du nombre d'annuités, etc., pour la retraite, mais aussi par la réduction du temps de travail hebdomadaire, etc. Bon. Et donc, c'est à la fois ça et le refus de poser la question de la répartition des richesses, qui devrait être deux questions liées. Et je rappelle quand même que, effectivement, la question des conditions de travail aujourd'hui, des conditions de travail de ce qui se passe quotidiennement pour les salariés, que dans quasiment l'ensemble des secteurs, c'est une aggravation des conditions de travail. Mmh. C'est-à-dire que les gens vont arriver en retraite à un âge supérieur et plus usés qu'avant, aussi en retraite. Oui. Donc ça, c'est vraiment des questions de fond, des choix de société.
On va y revenir tout de suite après la première pause musicale. On va écouter Alain Leprest avec La Retraite. Ah non, c'est... Wow. Rebonsoir. Donc vous êtes bien sur 106.3 Radio Fréquence Paris Pluriel. Donc on a eu un petit souci pour la musique. C'était pas du tout Alain Leprest, mais on va essayer de la passer tout à l'heure lors de la deuxième pause musicale.
Alors là, avant de reprendre notre débat et de passer donc à la seconde partie de cette discussion autour du contenu, proprement dit, des réformes qui sont proposées par le gouvernement Hollande, un petit mot sur les publications de la Fondation Copernic. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a donc une note qui vient de paraître sur les retraites, hein, l'alternative cachée, hein, Jean-Marie Arribet, Christiane Marty, Pierre Calfa, Marc Mangenot, Daniel Raller, Rosane Perrot et Bernard Tepper. Dire aussi que dans le cadre important des combats qui sont menés aujourd'hui par le DAL, une note est parue en collaboration avec la Fondation Copernic sur le logement, hein, et qui essaie de reprendre un petit peu les propositions qui sont celles du DAL et de la Fondation Copernic dans ce domaine. L'ensemble de ces notes, vous pouvez les trouver les acheter sur le site directement de la Fondation Copernic, soit directement auprès de l'éditeur Sileps. Voilà un petit peu pour cette petite page de publicité, si j'ose dire. Donc,
et puis il y a la note aussi sur le féminisme pour changer la société, donc qui sera le thème de la prochaine émission du mois prochain.
Voilà.
Donc on va passer juste un petit extrait cinématographique de 15 secondes.
Dans deux ans, au revoir monsieur dame. Je serai à l'échelon 7. Les mômes sont élevés, j'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, faut la prendre jeune.
Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde.
Donc voilà, ça fait bien la transition avec ce qu'on s'est dit avant. Hein, la retraite, faut la prendre vivant et c'est pas dans les moyens de tout le monde. Donc c'était un extrait des Barbouzes de Georges Lautner avec dialogue de Michel Audiard. Donc justement, c'est en parlant de cet âge de la retraite où on arrive de plus en plus tard, comment est pris en compte la question de la pénibilité dans ces nouvelles réformes? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien pris en compte, Annick Coupé?
Alors, effectivement, le gouvernement n'arrête pas de dire, c'est une réforme difficile, un peu douloureuse, mais qui sera profondément juste. Alors, bon, et il met beaucoup en avant cette affaire de pénibilité. Alors, effectivement, la question de la pénibilité est une question très importante. Hein, je l'ai dit avant, la question des conditions de travail, etc., bon, se dégrade largement. Qu'est-ce que propose le gouvernement dans sa loi? C'est un compte pénibilité individuel. Bon, ça en tant que tel, pourquoi pas. Mais il faudrait déjà poser la question de quels moyens pour faire en sorte que les salariés, tous les salariés, je pense notamment à ceux des petites entreprises, puissent faire réellement valider les années où ils sont exposés, etc. Mais surtout, c'est que les critères retenus, alors un certain nombre de choses sont renvoyées à des décrets, hein, puisque de toute façon, ces mesures-là ne s'appliqueront au mieux qu'au début, dans plus d'un an, c'est-à-dire au début de l'année 2015, donc il y aura un certain nombre de décrets qui préciseront les choses, mais d'ores et déjà, c'est assez limitatif, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de facteurs de pénibilité qui risquent de ne pas être pris en compte. Il y a le fait de la multi-pénibilité, si j'ose dire, c'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, quelqu'une souvent qui est exposée à des produits dangereux, qui travaille de nuit, a du stress, etc. Bon, la multi-pénibilité n'est pas prise en compte, et surtout, le gros problème, c'est que, en fait, au maximum, la personne, si elle travaille toute sa vie, pendant 40 ans, dans des postes de travail exposés à la pénibilité, eh bien, elle aura droit au maximum à 2 années. Bon, donc de départ en retraite anticipée, ce qui veut dire que dans l'état actuel des choses, l'âge légal étant à 62 ans, sans même parler du nombre d'annuités nécessaires pour avoir pour ne pas avoir de décote, eh bien ça sera 60 ans. Bon, or je rappelle quand même que dans un certain nombre de métiers, jusqu'à présent, même si c'est de moins en moins, la pénibilité permettait de partir beaucoup plus tôt, c'est-à-dire à 55 ans. Bon, donc on voit bien là que, en fait, c'est une prise en compte au rabais de la pénibilité. Par ailleurs, dans les mesures qui sont préconisées, donc c'est soit effectivement un départ anticipé en retraite, ça peut être aussi une reconversion. Mais là aussi, pour avoir droit à une reconversion, je dirais, il faudra être exposé à des facteurs de pénibilité pendant extrêmement longtemps. Et est-ce que vous pensez réellement et sérieusement qu'à 50 ans, quelqu'un va se reconvertir et pourra trouver un emploi qui lui permettra de vivre décemment, etc. Donc, derrière cette affaire de pénibilité, qui est une vraie question, les réponses ne sont pas du tout à la hauteur. Et pourquoi elles ne sont pas du tout à la hauteur? Une des raisons, évidemment, c'est que le patronat ne veut pas payer. C'est-à-dire que le patronat n'a eu de cesse de hurler sur cette affaire de pénibilité parce que ça allait, encore une fois, lui coûter cher, je reprends ces termes, et donc a tout fait pour en minimiser l'impact et donc le coût. Parce que la question de la pénibilité, c'est à la fois la prévention, évidemment, et c'est aussi, la correction de ça pour les gens exposés, et ça veut dire que ça coûte de l'argent. Et ça, le patronat ne veut pas en entendre parler.
Je pense qu'il faut aussi ramener cette question à la question de l'allongement de l'espérance de vie. Bon, Annick a parlé de l'aggravation des conditions de travail. Les hypothèses du corps sur lesquelles se base le projet du gouvernement sont une poursuite de l'allongement de l'espérance de vie. Or, il semble que l'espérance de vie, l'allongement de l'espérance de vie, effectivement, qui est une bonne nouvelle, ne date pas d'hier, mais il semble qu'il marque le pas, c'est-à-dire que l'espérance de vie ne continue plus à progresser, et on peut peut-être penser que c'est un premier effet de la dégradation des conditions de travail et des conditions de vie des précédentes contre-réformes. Et quant à l'espérance de vie en bonne santé, eh bien, elle a tendance à commencer à diminuer. Donc, il faut voir quel sera le prix à payer en termes de santé publique, en termes de santé des travailleurs, de cet allongement du temps passé au travail.
Alors, juste un chiffre peut-être. Alors, j'ai vu que l'espérance de vie, justement, sans incapacité, était passée de 62,7 ans à 61,9 pour les hommes. Et pour les femmes, c'est 64,6 à 63,5.
Donc, tout à fait.
Ça donne une idée à peu près, lorsqu'on parle de travailler jusqu'à 67 ans, de cette espérance de vie sans incapacité.
Et puis je pense qu'il faut dire aussi que la qualité de vie à 60 ans et la qualité de vie à 80 ans n'est pas forcément la même. C'est-à-dire ce qu'on va enlever aux gens, c'est les années de début de retraite qui sont globalement où on est en meilleure santé que quand on a 75 ou 80 ans. C'est aussi ça le débat.
Alors, on a démarré un petit peu le débat sur les propositions qui sont aujourd'hui sur la table, qui ont été proposées aux organisations syndicales par le biais de la pénibilité. C'est effectivement un des sujets. Et quels sont les autres sujets qui sont sur la table aujourd'hui du point de vue du gouvernement ?
Bah, y a la question, là aussi, le gouvernement a beaucoup mis en avant dans l'aspect juste de sa réforme, la question des inégalités hommes-femmes, puisque effectivement, c'est une question qui est maintenant rendue visible, je dirais, en 2006, en 2010, dans les mobilisations sur les retraites. Cette question des inégalités hommes-femmes en matière de retraite a été particulièrement mise en avant et a été un facteur de mobilisation. Donc, je pense que le gouvernement a compris ça. Et donc, ce qu'il propose, il fait ce constat, effectivement, des inégalités hommes-femmes, mais là aussi, on est très loin du compte. Alors, sur les mesures envisagées, je rappelle que la plupart des mesures sont discutées pour après 2020. Hein, donc déjà, je veux dire, on ne voit pas pourquoi on attendrait 2020. Bon, et la mesure essentielle qui est proposée, c'est de transformer la bonification de pension de 10% quand on est parent de 3 enfants en une somme forfaitaire. Alors, en tant que telle, cette mesure, de mon point de vue et de notre point de vue, va plutôt dans le bon sens, dans la mesure où aujourd'hui, effectivement, une bonification en pourcentage favorise les plus hauts salaires et les salaires masculins plutôt que les salaires féminins. D'ailleurs, je crois que c'est 70% des sommes enfin, correspondant à ça qui sont attribuées aux pères et 30% aux mères. Donc on voit bien, voilà. Alors, donc ça, cette mesure, elle va plutôt dans le bon sens, mais encore une fois, elle est reportée à 2020. Après, sur le reste, bon, il y a la mesure sur le temps partiel, c'est-à-dire que, effectivement, pour valider des trimestres, on abaisserait le seuil à 150 heures au lieu de 200 heures. Donc, effectivement, là aussi, bon, on peut dire, pour les personnes concernées, c'est mieux, mais sur le fond, ça règle rien. Et surtout, c'est que le nouvel allongement programmé, c'est-à-dire 41 annuités et demi aujourd'hui, 43 annuités après 2020, eh bien, va faire en sorte que les inégalités hommes-femmes vont s'aggraver, puisque et ne seront pas compensées par les quelques petites mesures ou, promesses qui sont faites en matière de bonification familiale.
Oui, alors il faut bien comprendre aussi quelque chose dans ce qu'on pourrait appeler l'économie de cette réforme et disons l'habillage politique de cette réforme. Bon, Annick a insisté sur le fait qu'une grande, enfin la plupart des mesures sont effectivement prévues pour 2020. Alors je pense que c'est quelque chose qui est important de noter par rapport aux perspectives de mobilisation parce que par rapport à la contre-réforme Sarkozy-Fillon de 2010, on peut avoir l'impression qu'il s'agit moins d'une attaque frontale, qu'il s'agit moins pour, disons, les générations actuelles d'une dégradation directe de leur niveau de pension, de leur durée au travail et qu'il va y avoir effectivement, comme l'a dit Annick, ces quelques petites compensations bien insuffisantes du côté de la pénibilité et du côté des inégalités hommes-femmes. Alors je pense qu'il est très important de rétablir la vérité par rapport à ça. C'est la première chose, effectivement, que pas plus que les autres, dans un contexte de chômage massif et qui va bien au-delà du chômage officiellement annoncé, on peut parler de l'ensemble du sous-emploi massif, dans un contexte de politique d'austérité maintenue, il apparaît absolument impossible que cette contre-réforme ajoutée aux autres puisse assurer un financement pérenne des retraites. Et de ce point de vue-là, on le voit dans le rapport Moreau, le gouvernement en est conscient, en s'inspirant du rapport Moreau, puisque finalement ce que le rapport Moreau préconise, ça serait pour l'avenir d'arriver à se passer de réformes, de contre-réformes successives qui à chaque fois peuvent susciter l'opposition, peuvent susciter un débat public, peuvent susciter des mobilisations et d'arriver à une sorte de pilotage automatique du financement du système de retraite où de façon continue en quelque sorte, sans en passer à chaque fois par un projet de loi, eh bien le niveau des pensions serait en quelque sorte la variable d'ajustement, un peu comme c'est déjà le cas dans les systèmes de retraite par points.
Donc sans débat,
sans débat public,
une seule solution qui serait la diminution des pensions
mais, en fonction de la conjoncture.
Enfin, mais ce que dit Stéphanie est évidemment tout à fait juste, mais d'ores et déjà les mesures qui vont s'appliquer dès 2014 si le projet va jusqu'au bout, je rappelle, c'est le décrochage du versement des pensions. C'est quelque chose qui n'apparaît pas forcément immédiatement parce que ça peut apparaître un peu technique, c'est-à-dire qu'au lieu que les pensions soient versées, réajustées au mois d'avril, ça avait déjà été décalé par Sarkozy du mois de janvier au mois d'avril, ça ne sera réajusté qu'au mois d'octobre ou novembre. C'est-à-dire que c'est une baisse des pensions. qui est programmée dès 2014 et qui évidemment se répercutera chaque année, donc une baisse effectivement du niveau des pensions. Alors le gouvernement dit ça, on ne touchera pas aux basses pensions. Bon, je veux dire à voir, et qu'est-ce que sont quelle est la notion de basse pension pour ce gouvernement?
Alors avec un taux de chômage, comme vous l'avez dit, très élevé, et puis ce chiffre de 50% de personnes qui ne sont plus dans l'emploi quand elles arrivent à la retraite, finalement ça revient un peu à transférer une partie du déficit de la branche retraite vers le système vers la branche chômage, quoi. C'est un peu...
Il ne faut pas oublier qu'on se situe par ailleurs dans un contexte où toutes les réformes de l'indemnisation du chômage n'ont abouti également qu'à faire diminuer l'indemnisation du chômage, à raccourcir sa durée, à augmenter sa dégressivité et à durcir sa conditionnalité en soumettant de plus en plus les chômeurs à des politiques punitives, de contrôle, de sanctions, etc. Donc les deux apparaissent complémentaires, bien évidemment.
Mais j'ai envie de vous reposer la question, la même que tout à l'heure, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a encore là aujourd'hui, de la part du gouvernement, un discours consistant à dire, là, cette fois-ci, c'est vrai. Si j'ose dire, cette fois-ci, les réformes que nous vous proposons doivent permettre de financer de manière durable le régime des pensions. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette fois-ci, c'est vrai?
Je pense qu'on peut absolument pas dire ça, ne serait-ce que parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la poursuite des politiques d'austérité, dont une grande partie aujourd'hui, même à l'intérieur du gouvernement et une grande partie des économistes, s'accordent à dire qu'elle ne peut en rien permettre de relancer la croissance, et donc l'assiette de financement qui, à taux de cotisation égal, peut permettre d'améliorer le financement des retraites ne peut pas être au rendez-vous.
C'est important de le dire, parce que on a quand même finalement cette idée, hein. Bon, tout ça est compliqué, la crise est présente, les affaires sont compliquées. Bon, peut-être un dernier effort et là on va pouvoir s'en sortir. Donc je crois que c'est important effectivement de démonter cette idée.
Non, et puis je pense qu'il faut rajouter quelque chose, c'est-à-dire que la question des retraites, c'est pas une affaire technique, c'est pas une affaire de comptabilité, c'est une affaire de choix politique. Ça veut dire que on sait par exemple aujourd'hui que le patronat aurait voulu que la réforme soit pire encore, puisqu'il voulait que l'âge légal soit repoussé, alors que dans les faits l'âge légal le sera, même si formellement il l'est pas. Avec l'allongement du nombre d'annuités, mais je veux dire pour les ultralibéraux, pour le patronat, c'est pas encore assez. Donc, je veux dire, fonction des rapports de force, personne ne peut dire que demain ou après-demain, eh bien, il y aura pas une nouvelle contre-réforme pour aggraver encore les choses. Je veux dire, la question des retraites, c'est des débats politiques et des choix politiques. C'est pas une question comptable.
C'est une question comptable. Ouais.
Alors on va revenir là en troisième partie sur toutes les alternatives qui sont proposées et puis les mobilisations en cours. On va faire une pause musicale maintenant, donc on va essayer d'écouter Alain Leprest, mais je veux pas trop m'avancer.
Ça y est, nous voilà vieux, ma vieille.
Dans 2 ans, au revoir, monsieur, dame. Je serai à l'échelon 7. Les mômes sont élevés. J'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, faut la prendre jeune.
Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde.
Bien, après ce petit moment de musique et ce petit trait d'humour, donc, avec les Barbouzes, on reprend notre discussion avec Annick Coupé, qui est porte-parole de l'Union syndicale solidaire, et Stéphane Drier, qui est maître de conférence en économie à l'Université de Créteil et membre de la Fondation Copernic. On arrive un petit peu là au troisième temps, de ce débat, après avoir, fait l'état des lieux du système de pension des retraites, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, des retraites, quelles sont les réformes qui sont proposées par le gouvernement. Là, maintenant, on a vu que tout ça nous amenait un petit peu dans le mur, et maintenant, on essaye un petit peu de voir quelles sont
des alternatives.
Des alternatives, des propositions qui peuvent être faites, qui sont faites dans la, dans la, dans la note, hein, retraite, l'alternative cachée de la Fondation Copernic, et compose à nos invités. Alors, un peu, quelles sont les grands, on a un peu déjà évoqué finalement, hein, quand on a dit une des manières de répondre à la question, c'est de pas se faire enfermer dans une question technique, c'est ce que disait Annick Coupé, hein, dans sa dernière intervention, mais c'est d'essayer de prendre à bras le corps la question, et en particulier en prenant la question de l'emploi. Stéphanie?
Alors déjà, le fait qu'il s'agisse de choix politiques et non pas de choix techniques, on le voit bien dans ce que le corps lui-même avoue à chacun de ses rapports, parce qu'à chaque fois, il l'a dit en 2010, il l'a redit dans son dernier rapport, il dit il y a trois leviers possibles pour revenir à l'équilibre des finances aujourd'hui, des retraites, ou ménager un équilibre à l'horizon 2020. Il y a trois leviers possibles, ou alors une baisse du taux de remplacement des pensions par rapport aux revenus d'activité, ou alors un allongement de la durée de cotisation et un recul de l'âge de la retraite, ou alors une augmentation du taux de prélèvement, notamment des cotisations sociales et notamment, pourquoi pas, des cotisations patronales. Et à chaque fois, aussi bien le corps que les rapports, comme le rapport Moreau qui s'en inspire, que les projets gouvernementaux, écartent bizarrement cette dernière solution d'une augmentation des prélèvements, notamment patronaux, pour ne considérer comme possible que les deux autres solutions, à savoir la baisse du montant des pensions, du taux de remplacement et l'allongement de la durée de cotisation. Donc on voit bien qu'il y a là un choix politique derrière, et ce qu'on pourrait opposer au choc démographique dont on nous rebat les oreilles, c'est au contraire un nécessaire choc de répartition des revenus, des richesses, pour justement assurer par une autre politique un financement des retraites.
Annick ?
Oui, je pense que c'est quand je disais que pour ce gouvernement, il y avait des questions taboues, ce qui est quand même assez étrange, enfin pourquoi que ça nous surprenne plus beaucoup maintenant, de refuser de traiter cette question des répartitions des richesses. Et donc, effectivement, à l'occasion du débat sur, enfin, ou de la séance de débat d'ailleurs sur le financement, du système de retraite par répartition. Je dois dire que, par exemple, je ne sais pas si les auditeurs et auditrices le savent, mais le taux de cotisation patronale n'a pas bougé depuis 1979, contrairement d'ailleurs au taux de cotisation des salariés. Hein. Bon, donc ça donne déjà une idée. Mais évidemment, l'argument qui nous est donné à chaque fois, c'est celui de la compétitivité des entreprises,
la concurrence,
du coût du travail trop élevé, etc. etc. Enfin, et ça, c'est les arguments repris aussi bien par Mme Moreau dans son rapport, que par le gouvernement et dans les choix qu'il a fait, effectivement, qui écarte toute idée même d'augmentation des cotisations patronales. Et là-dessus, je pense qu'on peut dire, on peut donner, un ou deux chiffres qui sont quand même assez éclairants. En 2012, par exemple, les dividendes versés par les entreprises du CAC 40 ont atteint 40,9 milliards d'euros, en hausse de 5% par rapport à l'année d'avant. Et on était dans la période de crise. Mais surtout, c'est qu'il faut évidemment renvoyer ça à la part versée aux dividendes aux actionnaires, comment elle a évolué dans la répartition capital-travail. Bon, c'est les fameux 10 points de PIB perdus au profit du capital.
Oui.
Voilà. Là aussi un chiffre, et j'arrêterai après avec les chiffres, c'est il y a 30 ans, les entreprises distribuaient 100 milliards de profits. Aujourd'hui, on en est à 230 milliards. Donc, il serait tout à fait possible d'augmenter les cotisations patronales sans mettre en danger la fameuse compétitivité des entreprises. Il suffirait simplement de donner un peu moins de dividendes aux actionnaires. Bon, et évidemment, ce débat-là, c'est un débat, encore une fois, totalement tabou pour ce gouvernement.
Donc, cette augmentation des cotisations sur le revenu du capital permettrait à elle seule d'assurer l'équilibre du système.
Le chiffre qui est donné, c'est le fameux chiffre de 20 milliards en 2020. Je pense que si on regarde aussi les exonérations de cotisations sociales qui n'ont aucune légitimité économique, je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité à trouver ces fameuses recettes. Enfin, je pense que il n'y a pas de difficulté particulière. Simplement, c'est effectivement le choix ou non-choix ou le refus de s'attaquer au capital. Et puis on pourrait aussi, en tous les cas, c'est la position de Solidaire, de dire que effectivement, si on mettait, enfin, on taxait ou on mettait à contribution tout ce qui est distribué par les entreprises, c'est-à-dire non seulement les salaires, mais aussi l'intéressement, les stock options, les bonus et bien évidemment les dividendes, franchement, il n'y a pas de difficulté à assurer le financement de la retraite par répartition et même de l'améliorer par rapport à toutes les contre-réformes qu'on a connues depuis 20 ans.
Alors, première piste, la répartition des richesses, on vous a compris. Il y a une seconde piste qui doit être explorée, je pense, c'est celle de la répartition du temps de travail.
Alors, c'est toujours une question de répartition des richesses parce que je dirais que ce choc de répartition auquel j'ai fait allusion et dont parle la note, donc retraite, l'alternative cachée, il se situe à deux niveaux. Il se situe dans de nouvelles pistes pour le financement des retraites, c'est-à-dire oser augmenter les cotisations patronales, oser politiquement faire cotiser les revenus du capital et notamment les dividendes versés aux actionnaires, ce qui évidemment ne nuirait en rien à la compétitivité de l'économie, si c'est ça qu'on cherche, puisque ces dividendes ne nourrissent absolument pas cette fameuse compétitivité. Mais il y a aussi la question du choc de répartition en amont de tout ça, c'est-à-dire autre chose qu'une politique d'austérité, une politique qui enfin permette une nouvelle augmentation de la part des salaires et notamment des salaires les plus faibles dans la richesse produite, une politique qui assure enfin une vraie égalité salariale entre les hommes et les femmes, et aussi, il faut bien le dire, Annick en a parlé tout à l'heure, reprendre enfin le cours d'une vraie réduction du temps de travail, d'une réduction hebdomadaire du temps de travail, mais évidemment, il faudrait que ce soit une réduction du temps de travail qui, comme ne l'ont malheureusement quasiment pas fait les lois Aubry, eh bien, ose s'attaquer au partage des richesses entre salaire et profit, c'est-à-dire qu'elle se fasse sans perte de salaire, qu'elle se fasse sans annualisation et
sans augmentation de la productivité.
Voilà. Et évidemment, une telle réduction du temps de travail pourrait créer massivement des centaines de milliers d'emplois.
Et donc de cotisations.
On serait là dans un tout autre scénario, évidemment.
D'accord. Donc on voit qu'en fait, cette question des retraites, elle concerne aussi des choix politiques qui traitent de l'ensemble du système économique. Annie Coupé, peut-être un mot avant de, parce qu'on arrive vraiment vers la fin de l'émission, peut-être sur les mobilisations qui sont prévues sur ce sujet, et puis quand est-ce que ça a lieu, et est-ce que on a une chance de voir aboutir un peu les revendications.
Bon, très honnêtement, les choses sont compliquées. C'est-à-dire qu'on a eu, d'une part, il y a une division dans le mouvement syndical, vous le savez. Ouais. C'est-à-dire qu'une partie du mouvement syndical soutient cette contre-réforme. Donc, évidemment, ça complique un peu les choses, notamment par rapport à 2010, où on avait un front de l'ensemble des organisations syndicales. Donc, on a eu un appel à la journée du 10 septembre, qui a été une première mobilisation. Je dirais qu'a été plutôt une bonne surprise, mais qui n'était pas une mobilisation à la hauteur des enjeux. Et on voit bien que ça n'a pas suffi à faire reculer le gouvernement. Et aujourd'hui, on va rentrer dans la phase de débat parlementaire, puisque ça va commencer au Parlement, à l'Assemblée nationale le 7 octobre. Entre parenthèses, je dois dire que de ce point de vue-là, le gouvernement aussi a repris les méthodes de Sarkozy et même en plus court, c'est-à-dire qu'il a fait un calendrier extrêmement resserré. C'est-à-dire pour un gouvernement qui prétendait faire une réforme de fond avec un débat de fond qui réglerait définitivement la question du financement des retraites, on a un calendrier encore plus resserré, donc totalement antidémocratique et donc qui en fait a peur d'un vrai débat citoyen. Bon. Donc le débat va commencer le 7 octobre. Il y a des ensembles d'initiatives qui commencent à être prévues dans les villes, dans les départements de la semaine du 7 octobre. Le 15 octobre, qui était, il y a un appel de la Confédération EFO. Je pense qu'il devrait y avoir un appel de la CGT pour ce qui concerne Solidaire. On sera aussi dans cet appel à une initiative de rassemblement devant l'Assemblée nationale au moment du débat. Bon, donc voilà, on est dans une période où, pour un certain nombre de raisons que j'ai pas le temps de développer là, c'est assez compliqué, y compris en termes de stratégie syndicale. En même temps, je pense qu'il est très important de faire monter le débat citoyen, d'où les initiatives collectif du collectif national retraite dans, à l'initiative de Copernic et d'Attac. Un certain nombre de meetings sont prévus dans des villes. Il y aura un meeting à Paris le 9 octobre au gymnase Japy dans le 11e arrondissement. Bon, voilà, donc je pense qu'il faut à la fois essayer de construire des mobilisations là où on le pourra, dans les cadres unitaires syndicaux possibles, et c'est parfois compliqué. La journée du 15, sans doute, va être un point de rendez-vous important, et il faut continuer le débat politique et le débat citoyen de fond. Et je dirais qu'il faut aussi montrer que cette contre-réforme, elle n'a pas de la légitimité. Elle n'a pas la légitimité populaire de ceux qui ont voté, et ceux et celles qui ont voté pour le changement il y a un peu plus d'un an et demi.
D'accord, merci. Peut-être un mot
très court.
Je voulais juste ajouter l'importance de tous ces débats citoyens, de ces réunions de collectifs unitaires, parce que Annick a parlé de meetings. Il va effectivement y avoir des meetings dans les grandes villes, mais il y a aussi des dizaines de réunions publiques de plus petite taille, mais qui essaiment un petit peu partout dans les différents lieux. Et ça, c'est extrêmement important pour arriver à justement rétablir la vérité sur cette question et mettre en avant les enjeux politiques.
D'accord, très bien. Merci beaucoup Annick Coupé et merci beaucoup Stéphanie Treillet pour avoir participé à cette émission. Donc vous pouvez retrouver l'émission sur le site de la Fondation Copernic, fondation-copernic.org. L'émission y sera téléchargeable d'ici peu. L'émission est rediffusée mercredi matin à 7h30. Et la prochaine émission donc aura lieu le 26 octobre sur le thème le féminisme pour changer la société. Merci à tous et bonne soirée. On finit avec de la musique Skip and Dial, la cumbia dictatura.
Ra ra.